avant de donner la parole à Eric, je vais lire les différents textes de l'Apocalypse dont il va parler ce matin. D'abord, dans Apocalypse au chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait pas. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait : voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront sa peuple et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara : voici, je renouvelle toutes choses. Il annonça : écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit : c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Plus loin dans le chapitre 21, je ne vis aucun temple dans ma ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Et l'agneau, lui tient lieu de l'ombre. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur. Puis au chapitre 22, finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir le peuple. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront éternellement.
Je ne sais pas quelle est votre préférence. Au niveau des barres chocolatées, moi, c'est Bounty. Et surtout, la publicité qui va avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 90 ou 80, mais c'était en anglais dans le texte « A taste of paradise », un goût de paradis, Bounty. Et c'était vrai en suédois aussi, « un smack of paradiset ». Je trouve ça marrant. Et puis en allemand aussi, un goût de paradis pour tout le monde, Bounty. Et c'était intéressant de voir la notion de paradis, c'est une notion essentiellement religieuse, prise par notre société de consommation pour vendre un produit. Bon, c'est bon Bounty, mais un goût de paradis. Alors quand on parle de paradis aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens, et nous aussi peut-être, on en parle au niveau du cadre et de l'environnement. À quoi ça va se ressembler le paradis? Quel goût de paradis? Disneyland, une station de ski avec de la neige poudreuse, pour moi tout seul, ça c'est ma vision du paradis, ou un lagon dans le Pacifique. Et en matière de paradis, on semble s'inquiéter surtout du cadre et du confort. et on aurait envie que quelqu'un nous envoie une carte postale du paradis pour savoir à quoi s'attendre, comme dans les dépliants des agences de tourisme. Comment sera la chambre d'hôtel? Est-ce qu'il y a un accès à la plage, la salle de bain? Est-ce qu'il y a un jacuzzi? Est-ce qu'il y a une vue sur la mer, comme le presbytère au-dessus, enfin un tout petit triangle, mais on peut se demander si c'est des bonnes questions en matière de paradis. Parce que on sait pertinemment que même ici-bas, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le cadre, ce n'est pas la qualité de la moquette ou la qualité des loisirs que l'on peut avoir. Ce qui compte vraiment, c'est qui je suis, ce que je suis, et ce que je serai et avec qui je serai. Dites-moi si je me trompe. Mais moi, je préfère de loin passer 3 jours sous une tente minable, sur un terrain vague de ranguin, on va dire, avec des amis qui me font rire, qui m'encouragent, qui m'ouvrent l'esprit et qui m'aiment, que 5 jours dans une villa splendide de la Californie de Cannes, hein, avec des gens égoïstes et ternes, superficiels, qui me méprisent et qui me font sentir misérable. Il n'y a pas photo entre les deux, non pas parce qu'il y aurait un cadre, non pas à cause du cadre, mais à cause des gens qui y sont et de ce que je suis avec ces gens. Et quand Jean nous parle de l'Apocalypse, nous parle de la fin et du paradis qui vient, c'est ce qu'il veut transmettre, ce qui est important dans le paradis, ce qui fait du paradis le paradis, c'est que c'est ce que je vais y être et avec qui je vais y être. Ce qui compte au paradis, ce qui fait même le paradis, ce sont les gens, les relations. Le goût des paradis, c'est d'abord les autres et peut-être celui, le goût de l'autre avec un A majuscule, le goût de Dieu. Et l'Apocalypse nous parle de ce paradis-là, le paradis des relations renouvelées. Alors, nous avons parlé de l'Apocalypse ici même depuis le mois de septembre. On a vu que l'Apocalypse voulait dire révélation, non pas catastrophe, mais révélation de ce qui va se passer. Révélation donnée à Jean sur l'île de Patmos. Et puis, on a vu que c'était centré sur l'agneau, comme ce l'agneau mystique de Van Eyck à Gand, l'agneau là, l'agneau immolé, symbole de Christ, mais debout, debout, victorieux, qui donne la vie, cet agneau. Et puis on a vu les lettres de l'Apocalypse, quatre lettres sur les 7, qui sont des invitations concrètes à changer, à transformer, à vivre dans la gloire de Dieu, des églises qui existaient, et des églises qui étaient comme la nôtre. Et puis, nous avons vu aussi l'ouverture des sceaux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui viennent, qui sont comme des jugements en temps de crise, le même mot dans l'original, crise et jugement, mais en fait des sceaux aussi qui préservent les 144 000, c'est-à-dire nous tous, ceux qui ont placé leur confiance en Christ, la grande foule scellée par le Saint-Esprit. Protégés, authentifiés, enfants de Dieu, filles et fils de Dieu. Et puis nous avons vu aussi qu'au chapitre 13, l'Empire contre-attaquait. Dark Vador, The Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque. On a vu aussi tous ces antichrists qui étaient dans le monde, ces figures de l'antichrist aussi, avec ce chiffre 666, 7-1 à chaque fois, 7-1, 7-1, 7-1, 7, le chiffre de la perfection de Dieu, -1, celui qui prétend à la perfection, mais qui échoue irrémédiablement, l'antichrist, la bête qui sort de la mer. On a vu aussi, et je vous montre cette photo que je vous ai dit que je n'avais pas trouvée, mais je me suis adressé à ma fille Tamara, et qui a tapé Kate Blanchett, Ring Evil. Et là, on a trouvé la transformation même de l'elfe, Kate Blanchett, Galabriel, je pense, qui, au contact de l'anneau, du pouvoir de l'anneau, se transforme. Elle est pas, elle, elle est horrible, elle fait peur. Non, elle reste belle quand même, mais bon. Le pouvoir de l'agneau, de la force obscure, le côté obscur de la force. Et puis, on avait été invité à rejoindre la communauté, non pas de l'anneau comme dans le Seigneur des Anneaux, mais la communauté de l'agneau au centre de l'Apocalypse. Et nous sommes maintenant à la fin du livre. Apocalypse 21 et 22. Et dans les trois passages qu'Yvonne nous a lus tout à l'heure, Jean nous parle du paradis en trois tableaux. Non pas trois paradis différents, à étage, non pas du tout, mais le paradis vu sous des angles différents, à l'aide d'images et de symboles tirés de l'Ancien Testament. Apocalypse 21 et 22, a taste, un goût de paradis. Mais avant d'aller plus loin, il faut s'empresser de dire que le fait qu'il s'agisse d'images et de symboles n'enlève rien à la réalité des choses décrites. Le paradis n'est pas une vue de l'esprit, pour notre auteur inspiré par Dieu, c'est une réalité qui ne peut exprimer qu'au travers de mots et de phrases et des images qui sont toujours en deçà de la réalité, mais qui pointent vers la réalité que Dieu nous révèle. L'Apocalypse, c'est la révélation de la réalité de Dieu pour nous. Et cette réalité, d'abord, c'est qu'il y a une fin, que l'histoire est en route, et qu'elle va vers son dénouement ou son accomplissement de sa plénitude. Et comme il y a eu un commencement, il y a aussi une fin, parce que l'histoire n'est pas cyclique, comme dans le bouddhisme. Vous savez, le bouddhisme, c'est le cycle terrible des réincarnations successives. Ce n'est pas le paradis, vraiment pas. Les réincarnations successives, dont le seul échappatoire, ou la seule échappatoire, est le nirvana, qui est le néant. Ça, c'est le bouddhisme, le cyclique. Et on s'échappe par le nirvana, qui est le néant. Mais l'histoire, du point de vue biblique, du point de vue de Dieu, avance vers une finalité, même un but. D'ailleurs, une des traductions de la Bible parle de but plutôt que de fin. Et la fin, ce n'est pas la fin qui apparaît sur l'écran, juste avant l'écran noir au cinéma, ou le rideau qui tombe sur la scène du théâtre. Non, la fin, c'est le début d'une autre histoire, celle du paradis. Trois images pour une même réalité, celle d'une fin, d'un accomplissement, d'un aboutissement. D'abord, l'image d'un monde nouveau. A new world. Il y avait une chanson que tout le monde chantait à l'époque sans y croire vraiment. Un nouveau monde, ouais. Jean nous montre la réalité de ce nouveau monde. Et dans ce monde nouveau, tout est nouveau. Le ciel est nouveau, la terre est nouvelle, la Jérusalem est nouvelle. Et Jean reprend le prophète Ésaïe et l'accent est clairement mis sur la nouveauté. « Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Tout est nouveau. » Et en plus, cette ville nouvelle, elle vient d'en haut. C'est une construction qui vient d'en haut. Cette nouveauté vient de Dieu. Ce n'est pas un bricolage humain comme la tour de Babel où on essaye de s'élever vers Dieu. Non, Dieu, la ville descend. Dieu, c'est Dieu qui crée du nouveau, qui crée du neuf, un nouveau monde. Et Pierre nous en parle dans sa deuxième lettre. Et nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et ce qui est particulièrement nouveau dans ce monde nouveau, c'est qu'il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura plus d'eau au coin de nos yeux. Il n'y aura plus de larmes. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de larmes parce que la source du mal, représentée par la mer dans l'Ancien Testament, la mer est une image du mal, du mauvais, parce qu'elle a disparu, la mer n'était plus, la mer n'existait plus. Pas la mer bleue, hein, pas la mer Méditerranée, mais la mer comme symbole du mal. Et c'est le premier trait à souligner de ce paradis qui n'a rien à voir avec une carte postale, mais qui parle de nous et des autres, et avec nous, c'est la fin de nos larmes et des leurs. Le réconfort, la consolation. Et tous les pédiatres ou les pédopsychiatres le diront pour les enfants, la consolation, le réconfort de leur maman ou de leur papa est un besoin de première nécessité. Pour la première chute, pour la première déception, ou quand ils sont grondés pour la première fois par l'instituteur, ou la première punition, ou le premier rejet des copains, quand les larmes arrivent, il faut des bras pour en serrer, il faut une épaule pour sécher ses larmes, il faut entendre une voix qui dise « c'est fini, c'est fini ». Alors on grandit, on atteint un certain âge, un âge où on réalise que certaines blessures ne seront jamais guéries ici-bas, que certains souvenirs resteront douloureux à jamais, et qu'on ne peut être ici-bas complètement, parfaitement heureux ou joyeux. Non, on le sent bien. On peut lire des livres, on peut rejoindre un groupe de soutien, on peut faire des efforts pour développer une attitude positive, et ce sont des choses à faire. Certainement, mais il y a une douleur au fond du cœur qui reste tenace et qui ne partira pas jusqu'à ce que nous soyons dans ce monde nouveau où la tristesse ne sera plus, où il n'y aura plus de larmes. Et on ne sera pas là par magie ou par un quelconque déni de la réalité ou par refoulement, mais parce que Dieu va refaire les choses en état. J'aime bien ce théologien écossais qui parle de remise en ordre. Dieu va remettre les choses en ordre. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Voici, le nouveau est déjà là. 2 Corinthiens 5, 17, que j'ai appris ce verset quand j'étais jeune chrétien par cœur. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on l'a lu tout à l'heure, celui qui est assis sur le trône dit « c'est fait ». C'en est fait, c'est fait. Au paradis, nous serons vraiment consolés et joyeux. La deuxième image utilisée par Jean pour parler de votre avenir éternel, de notre avenir éternel, c'est la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Une image bien connue de tous les lecteurs de l'époque. Ésaïe, encore lui, en parlait déjà. Ézéchiel aussi. Pour les remparts, en carré, avec 3 portes dans chaque côté, avec les noms des 12 tribus, et Jean emprunte encore une fois du matériel de l'Ancien Testament pour construire sa nouvelle Jérusalem. Mais Jean ajoute aussi une précision importante. Elle repose sur les 12 fondements qui portent le nom des 12 apôtres de l'agneau. Parce que cette nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem céleste, c'est l'Église. C'est le rassemblement de l'Église de Jésus-Christ, c'est son épouse, c'est la nouvelle Israël. C'est une Église énorme avec 2000 kilomètres de côté si on calcule les données. Parce que l'œuvre de Dieu est grandiose, mais elle n'est pas monstrueuse, elle reste très ouverte. Les portes ne se fermeront pas pendant le jour. Wow. Ouverture de la ville, pas de blocus. Toutes des images pour évoquer l'universalité de l'Église. Les nations marcheront à sa lumière dans cette nouvelle Jérusalem. Une Église internationale, une Église transnationale, une Église universelle, catholicos. Vraiment catholicos, avec un clin d'œil à nos amis et frères catholiques. C'est son Église glorieuse qui descend du ciel. Certains ont parlé de l'enlèvement de l'Église, mais là, c'est l'Église qui vient, non pas géographiquement, mais symboliquement, elle vient de Dieu. Et tout l'accent tombe sur la gloire. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, la gloire de Dieu, comme la Shekinah, entrait dans la tente de la rencontre dans l'Ancien Testament et qui remplissait cette tente de la rencontre de la présence de l'Éternel. La gloire de Dieu est présente dans cette Église. Il n'y a pas de temple, dit-on plus loin dans Apocalypse 21. Il n'y a pas de temple parce qu'il n'y a pas besoin. Dieu habite la ville. Dieu est présent dans son peuple. Et il y a une autre, il y a un autre point que veut souligner cette image de cette Jérusalem céleste qui nous touche plus particulièrement parce qu'il y a dans cette ville une participation, notre participation à la gloire, à cette luminosité. Ce sont les pierres précieuses qui sont serties dans les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Et ces pierres précieuses vous ressemblent étrangement. Qui le topaze? Qui le jaspe? Qui la turquoise ou la jaspe? Ben, le jaspe. Des pierres précieuses qui étaient, pour ceux qui ont lu un peu l'Ancien Testament, sur le grand pectoral du souverain sacrificateur pour chaque tribu. Mais maintenant, ces pierres sont dans la muraille, dans la présence même de Dieu. Intramuros, elles sont de purs joyaux et elles reflètent sa gloire. Elles sont parfaitement, moralement parfaites, parfaitement taillées. Plus rien ne pose problème. Et là, on touche à la perfection morale de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de face ou de côté sombre de la force. Il n'y a plus de Dark Vador ou de Saruman. Tout est lumineux parce qu'on est là, dans la Jérusalem céleste, et il n'y aura pas de nuit, nous dit le texte. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura plus pas de nuit pour cacher son péché, parce qu'il n'y aura plus de péché. Parce qu'il n'y aura plus de mal. Parce que Christ est la lampe. Parce que Christ est ma lumière. Parce que Christ me rend, par la mort sur sa croix et la résurrection, complètement parfaitement bon, moralement bon. Le paradis, c'est aussi l'endroit où l'on vit un accomplissement moral. Nous serons des trésors de moralité. Eh bien, c'est pas trop tôt. Moi, j'avais un groupe que j'aimais bien. Enfin, j'avais... J'animais un groupe d'hommes à Bruxelles, une quinzaine de gars entre 30 et 40 ans. Et on avait des réunions... Et on étudiait la Bible, et on parlait de comment être un bon père, comment être un bon mari, comment être un homme selon le cœur de Dieu. Et on se disait à chaque fois, entre hommes, là, eh ben, on n'est pas arrivé. J'aimais bien ces réunions, surtout que c'était ponctué par des dégustations de bière et de fromage belge. Mais... On se sentait pas arrivé moralement. Parce que tous autant que nous sommes ici, nous ressentons certainement une fatigue, voire même une lassitude par rapport à nous-mêmes. Fatigués du combat contre le mal dans notre vie, fatigués de nos défauts, de nos faiblesses, de nos petitesses, fatigués de se faire mal soi-même, et surtout de faire mal aux autres sans le vouloir et parfois en le voulant. On est impatient de devenir vraiment meilleur. Et si nous progressons, bon gré, mal gré, la progression est tellement lente. Mais un jour arrivera où il n'y aura plus de ténèbres dans ma vie et dans la vôtre. Nous serons des pierres précieuses, des trésors moraux. C'est un goût de paradis qui nous laisse beaucoup d'espoir, n'est-ce pas ? Et qui nous permet de marcher aujourd'hui avec assurance, en pleine lumière, sachant que quoi ? Que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne en poursuivra l'achèvement, l'accomplissement, le but, la fin, jusqu'au jour de Jésus-Christ. L'accomplissement au jour de Jésus-Christ, de son retour pour le paradis moralement bon. Dernier passage de l'Apocalypse sur le paradis, le chapitre 22, et ce retour au jardin d'Éden avec, entre les deux fleuves, un arbre qui sert à la guérison des nations, de toutes les nations. Vraiment un goût de paradis, ce jardin. Et qui répond peut-être à une dernière question que l'on pose sur le ciel. Qu'est-ce qu'on va y faire dans le paradis ? Est-ce qu'on va jouer de la lyre, de la cithare, du chalumeau, un instrument de musique de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on va jouer au barde d'Astérix, Assurance Tourix, qui chante comme une casserole? Alors on aime bien chanter, mais ça pour l'éternité, ça risque de faire un peu long, surtout à la fin, comme dit Woody Allen. On aurait envie de faire un break, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce paradis? Alors certains, un peu moins mélomanes, se demandent si on jouera au football au ciel. Le paradis sans le football, ce ne serait pas vraiment le paradis. Et à ce sujet, il y a une histoire de deux copains qui se posent justement la question, est-ce qu'on joue au foot au paradis? Et ils font un pacte, que le premier qui y va se débrouille pour faire savoir à celui qui reste si on joue au football au paradis. Et un jour, l'un d'entre eux meurt. Mais il parvient à faire parvenir un mot à son copain. L'histoire ne dit pas comment, mais il arrive à faire passer un petit mot à son copain. Et le petit mot dit « Écoute Marcel, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'effectivement, on joue au foot au paradis. La mauvaise, c'est que tu joues dimanche. » Avec l'ambiguïté, on a envie du paradis, mais peut-être le plus tard possible. Bon, on a peur de s'ennuyer au paradis, et il me semble que cette angoisse relève d'une certaine philosophie dualiste qui voudrait qu'il faudrait le mal pour pouvoir s'amuser vraiment, qu'il faudrait qu'il y ait du piment, qu'il y ait le mal pour avoir un défi. Si le mal n'est pas là quelque part, on va s'ennuyer, c'est un peu cela. Mais la Bible n'est pas dualiste, et la disparition du mal n'est pas la disparition du goût de la vie. Et la troisième image va nous donner quelques réponses, au contraire. Et cette troisième image fait un retour en arrière vers le jardin d'Éden, l'arbre de vie, le fleuve qui passe d'ailleurs dans une avenue. C'est un petit peu bizarre, ça c'est dans Apocalypse 22. Hein. Mais il faut rappeler que Jean ne cherche pas à faire quelque chose de géographiquement, architecturellement cohérent. Non, il parle en symbole. Et la notion de ville et d'avenue parcourt les trois images. Et donc c'est ce qui fait son unité à cette image du paradis. Et dans ce jardin d'Éden, non seulement que l'on retrouve, mais qui est renouvelé, transformé, augmenté, il y a une petite phrase qui ressort « et ils régneront à tout jamais ». Parce que, comme dans le jardin initial, nous sommes faits à l'image de Dieu et nous avons besoin de faire quelque chose comme Dieu le fait. Dans sa création, dans son règne, nous sommes appelés à régner avec lui, à faire quelque chose, de produire quelque chose, de créer quelque chose, et nous ne serons pas frustrés de cela au paradis, ce sera au contraire complètement réalisé au ciel. Nos dons, nos capacités, nos idées seront finalement et vraiment actualisées au ciel. On sera impliqué avec Jésus et avec ses amis dans une activité créatrice sans fin. Et donc, à tous ceux qui se demandent s'il y aura quelque chose à faire au ciel, quelque chose qui leur pose un défi intellectuel ou physique, qui développe leur créativité, qui met leur esprit d'aventure en éveil, qui les mobilise, qui leur donne envie de vivre et de se dépasser, eh bien la réponse est oui, ils régneront avec lui. Ils, c'est nous, c'est les serviteurs. Ils régneront avec lui pour toujours. Et on s'aperçoit qu'il y a comme un lien entre l'activité sur terre et celle de la nouvelle terre. Et donc, chacun de nous est invité à attendre la fin, l'accomplissement, non pas en se tournant les pouces, mais au contraire, parce que le ciel n'est pas une maison de retraite, mais plutôt une maison de production. On va développer maintenant ses capacités et les mettre à contribution dans ce monde, parce que pour l'instant, c'est juste de l'échauffement. Le vrai travail commence au ciel. Notre véritable contribution est encore devant nous et c'est une perspective qui nous dynamise, ici et maintenant. Trois images qui pourraient nous faire, que l'on pourrait développer, mais on s'arrête là. Au paradis, nous serons parfaitement consolés et donc parfaitement joyeux. Au paradis, nous serons tout à fait accomplis moralement. Au paradis, nous serons incroyablement actifs et créatifs. Et cela, tout en buvant à la source de la vie, que celui qui a soif, ou à celui qui a soif, je donnerai à boire de l'eau de la vie. Et dans ce verset, le boire de l'eau de la vie, il y a un goût de plénitude. Je donnerai à boire de l'eau de la vie. A taste of paradise. Et avec ce goût dans la bouche, ce goût avec une tellement une bonne persistance, comme on dit pour le vin, hein, ou le bon vin, une bonne persistance, nous pouvons vivre dans ce monde avec ce goût à la bouche, dans ce monde qui en manque cruellement de bonne persistance. Alors la question se pose, et celui qui n'a pas soif, et celui qui n'a pas le goût de paradis, et ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre, et ceux qui n'auront pas accès à l'arbre de vie, on se pose de la question de cet accès à ce paradis évoqué par le chant bien connu, on ira tous au paradis, ça date un peu, mais... Et l'Apocalypse, dans son style, nous en parle de cet accès au paradis et nous dit que le paradis ne sera pas pour tous, ou plutôt que personne ne s'y retrouvera par hasard. Parce qu'on ne se retrouve pas par hasard auprès de Dieu. On le cherche. On le recherche. On s'en approche. Et l'Apocalypse termine par un mot qui revient plusieurs fois, et ce mot c'est « viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Il y a là un appel à goûter à ce paradis, à le vouloir, à avoir soif, à le désirer, même s'il est gratuit. Et c'est un petit peu le grand mystère de la foi. Le paradis est d'un accès limité, mais en fait, il est pour tous ceux qui le désirent vraiment. Le paradoxe de la grâce. Un paradoxe lumineux, un paradis gratuit offert à tous ceux qui le désirent. Pour nous donner un dernier goût de paradis, je termine par une citation. Je termine par une citation des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis qui a inspiré Tolkien de Seigneur des Anneaux. Un chrétien. Et il a écrit une histoire, une chronique d'enfants qui habitent Narnia et qui font la connaissance de Aslan. Aslan, c'est le lion, là, le lion de Juda. Et à qui il arrive, à ses enfants, toutes sortes d'aventures et de combats. Et c'est le dernier passage du dernier livre de la chronique de Narnia. Et c'est Aslan qui parle. Il s'adresse aux enfants, « Vous avez eu un vrai accident de train ?» dit Aslan tout doucement. « Votre papa et votre maman et vous tous êtes, comme vous aviez l'habitude de dire dans le pays de l'ombre, morts. Votre ouvrage est terminé. Les vacances ont commencé. Le rêve est fini, c'est le matin. » Et le narrateur reprend, et comme il parlait, comme Aslan parlait, il ne ressemblait plus à un lion. Et les choses qui commencèrent alors furent si belles que je ne peux vous les relater. Pour moi, le narrateur, c'était la fin de mes histoires, mais pour eux, c'était seulement le début de leur véritable histoire. Leur vie dans ce monde et toutes leurs aventures dans Narnia n'étaient que la page de couverture du livre. Maintenant, enfin, ils commençaient le chapitre 1 de cette grande histoire que personne sur Terre n'a encore lu. Une histoire qui n'a pas de fin et où chaque chapitre est meilleur que le précédent. Une vie avec un goût de paradis.